Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et avec l'interview politique
de David Doucan et son invité ce soir, Benjamin Griveaux, candidat à la République En Marche à la mairie de Paris.
Bonsoir Benjamin Griveaux.
Bonsoir David Doucan.
Alors, le gouvernement va annoncer demain toute une série de mesures pour mieux contrôler les flux migratoires. Alors ça jouera sur l'accès à la prestation universelle maladie avec la création d'un délai de carence. Il y a l'idée de mettre des quotas pour l'immigration économique. Des mesures au fond équilibrées, pas spectaculaires. Est-ce qu'Emmanuel Macron joue un jeu dangereux en mettant ce sujet de l'immigration au cœur du débat public, mais sans annonce forte derrière pour y répondre ?
Je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir débattre. Chaque année, c'était un engagement qui avait été pris à l'issue du grand débat. Et qu'on va pouvoir débattre sereinement à l'Assemblée nationale et au Parlement de la question migratoire. Ce qui va éviter d'avoir beaucoup de rumeurs, de fantasmes, de fausses nouvelles qui circulent. Souvenez-vous, il y a un an exactement, circulait une folle rumeur sur le pacte de Marrakech qui aurait fait que 480 millions de personnes auraient débarqué du jour au lendemain en Europe. Le mettre sur la place publique, ce débat, ça permet d'objectiver les choses, de dire ce qu'est la réalité de l'immigration économique dans notre pays, quels sont les besoins qu'on peut identifier. Et c'est vrai que c'est difficile parfois d'identifier les besoins. Il y a des métiers en tension, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des régions où il y a des besoins plus que d'autres coins du pays. Et donc cela, moi je trouve que le faire de manière transparente, apaisée, rationnelle, et objectivé à l'Assemblée nationale, eh bien, je crois que ça honore plutôt notre pays qu'autre chose.
Marine Le Pen, cet après-midi, a parlé d'enfumage. C'est le risque. Mais que nos concitoyens se disent, voilà, des mesures, bon, qui sont parfois techniques, votons pour le Rassemblement national. Ce sera radical, la réponse à l'immigration.
Mais la réponse à l'immigration que propose le Rassemblement national est une réponse qui n'a jamais fonctionné quand elle a été employée dans certains pays qui s'y sont essayés. La réponse, elle est européenne. Marine Le Pen ne veut pas de l'Europe. La réponse, elle passe par des gardes-frontières au niveau européen avec les 5000 gardes-frontières. Marine Le Pen s'est toujours prononcé contre, en siégeant au Parlement européen par ailleurs, ces gardes-frontières européens. Je vais vous dire, le bon niveau de réponse, il est européen. Et vous le dites, c'est peut-être technique, mais vous savez, le diable se niche souvent dans les détails. Et sur cette question aussi sensible, eh bien voilà, il est normal que le Parlement puisse se prononcer et débattre librement de ces questions.
Je vous lis une phrase, Benjamin Griveaux. Je ne crois pas aux politiques de quotas. Parce que on ne sait pas les faire respecter. Déciderions-nous d'avoir un quota d'informaticiens ou de bouchers ? Un tel dispositif serait quasiment impossible à piloter. Qui a prononcé cette phrase ?
Je ne sais pas, mais je lis dans votre regard que...
C'est Emmanuel Macron en mars 2017. Il a changé d'avis, le président de la République.
Vous savez, on a été confronté à des crises européennes à répétition avec les épisodes qui ont commencé dès l'été 2017 de l'Aquarius. Et puis, il y a eu d'autres navires avec la question migratoire posée en permanence. Il y a eu le basculement en Italie et l'arrivée de Matteo Salvini avec une doctrine extrêmement dure. Et puis, il y a un durcissement. Et donc, vous ajustez aussi, et c'est normal, la question, la riposte que vous avez sur cette question-là, eh bien, à l'état des pays qui sont autour de vous, de vos voisins. Parce que, à nouveau, si vous voulez faire tout seul, si vous voulez régler le problème dans les frontières de l'Hexagone, vous n'y arriverez pas. Vous racontez des histoires aux Français.
Le président de la République.
Et donc, quand on a en Italie, en Allemagne, des situations politiques qui évoluent, le président de la République, eh bien, avec ses homologues européens, bâtit du
adapté.
Consensus.
Des quotas sur l'immigration économique, peut-être actionner le levier de la prestation universelle maladie avec ce délai de carence, tout cela ne répondra pas à une situation absolument lunaire entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers. Aujourd'hui, au moment où on se parle à Paris, près de 3000 migrants qui s'entassent dans un campement insalubre, indigne de la France et de notre pays. Le sujet, là, ce sont les délais de réponse pour les demandes d'asile, qui sont toujours très longs. La loi Collomb a été un coup d'épée dans l'eau.
Ça n'a pas été un coup d'épée dans l'eau, et c'est vrai qu'il y a une crise humanitaire qui se développe entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle, et je n'oublie pas, c'est pas parce que je suis élu de Paris que je ne regarde pas au-delà du périphérique, qu'il y a aussi un campement en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Et donc, cette question-là, c'est la question du traitement des délais de traitement des dossiers. Ça s'est amélioré, la loi que l'on l'a permis. Pas encore suffisamment, mais on a amélioré un peu la situation.
Le président dit lui-même que ce n'est pas satisfaisant.
Ça n'est pas suffisant, à l'évidence. Et après, moi je le dis aussi, c'est une responsabilité qu'il faut savoir partager et arrêter de renvoyer les uns systématiquement dos à dos. La ville de Paris, et moi si demain je suis maire de Paris, ne devrait pas autoriser les campements. C'est-à-dire que lorsque une tente s'installe à la porte d'Aubervilliers, à la porte de la Chapelle ou que sais-je, ailleurs, eh bien, il faut demander au préfet de l'évacuer parce que
là, il y a une question
ça
de compétence.
Fixe les populations.
Anne Hidalgo dit que c'est la responsabilité de
absolument
l'État.
Absolument pas, c'est l'occupation du domaine public de la ville de Paris et ça c'est absolument la responsabilité du maire de Paris. Encore faut-il que le maire de Paris demande l'évacuation, ce qu'elle n'a jamais fait, pour des raisons de politique interne.
C'est-à-dire lesquelles?
Ce sont ses accords électoraux avec les Verts et les communistes qui lui interdisent, au fond, de faire ce que tout bon maire ferait. Regardez
mais
à
Benjamin
Berlin.
Griveaux, pourquoi les Verts et les communistes auraient intérêt à ce que des campements indignes s'installent dans Paris?
Parce que sinon, si on vous fait évacuer un campement, vous êtes taxé le lendemain matin de fasciste par les opposants politiques qui sont les nôtres au Conseil de Paris. Ce que je veux vous dire, c'est que des villes européennes, Berlin, a accueilli 1 million de migrants en Allemagne. Alors certes, 4 à 500 000 ont été renvoyés vers d'autres pays européens, mais donc beaucoup plus de migrants qu'en France. Est-ce qu'il y avait des campements aux portes de Berlin? Non. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y avait pas de petite politique politicienne sur un sujet aussi grave. Quand il y a une crise humanitaire, la ville de Paris travaille main dans la main avec l'État, sinon ça ne peut pas fonctionner.
Alors vous portez une proposition dans cette campagne électorale pour la mairie de Paris. Vous dites, on va créer une police municipale, 5000 hommes et femmes armés. C'est votre proposition. D'abord, une précision. Quand vous dites une police municipale armée, on parle d'armes létales?
On parle d'armes de poing, donc 9 mm, donc oui, potentiellement létales.
Ce sont donc des pistolets, pour qu'on soit
exactement.
Très clair.
Voilà.
Non, mais il fallait apporter cette précision, parce que certains parfois jouent sur l'ambiguïté. Comment financez-vous cette proposition?
Alors, d'abord, je le fais pour une raison simple, c'est que quand on dit qu'on va créer une police municipale, ce que dit la maire de Paris, Madame Hidalgo.
Oui, elle fait cette proposition.
Oui, une police désarmée. Moi, je considère qu'à partir du moment où vous mettez des femmes et des hommes sur la voie publique, avec marqué « police » dans le dos, et que vous les armez simplement d'une matraque et d'une bombe à aérosol, vous n'en faites pas une police municipale, vous en faites des cibles pour le terrorisme, des cibles pour le grand banditisme. Et il y a eu des exemples par le passé de policiers municipaux, de policières municipales qui n'ont pas été en mesure de riposter. Moi, je veux protéger...
Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, on s'en souvient, en 2015, je rappelle son nom.
Aurélie Fourquet, qui a été victime dans le cadre du grand banditisme Redouane Faïd, etc. Et donc moi, je veux protéger ceux qui vont protéger les Parisiens. Parce qu'à Paris, il y a les missions de la police nationale, le banditisme, la grande criminalité, le terrorisme, et il faut bien séparer la mission de la police nationale des missions de la police municipale. La police municipale, c'est quoi? Ce sont les nuisances du quotidien. C'est le rassemblement en bas de l'immeuble. C'est les nuisances qui sont liées au bruit la nuit parce que voilà, il y a un bar un peu trop bruyant. C'est les vendeurs à la sauvette. Toutes ces missions qui occupent la police nationale aujourd'hui, alors qu'elle devrait occuper la police municipale et donc libérer du temps de police à la police nationale.
5000 hommes et femmes.
Donc c'est remettre de l'ordre dans l'espace public, ce sera ça. Le rôle de la police municipale parisienne.
5000 hommes et femmes d'ici la fin de votre éventuelle mandature, c'est ça?
On a aujourd'hui,
c'est sur 6 ans.
On a aujourd'hui 3200 personnels de sécurité, une part d'entre eux avec une formation, parce que évidemment je les arme avec des armes létales, donc des pistolets pour parler concrètement, mais le pendant de cela c'est une vraie formation. Former un policier municipal à partir de quelqu'un qui n'a aucune formation sur les sujets de sécurité, c'est 120 jours. Ça coûte 15 000 euros par personne. Et puis moi je souhaite également qu'ils aient chacun un équipement, c'est une caméra piéton, pour qu'on puisse observer les modes d'intervention. Et ça permet aussi à nos concitoyens de se dire que la police municipale ne fait pas n'importe quoi, qu'elle agit dans un cadre légal, dont je rappelle par ailleurs que c'est l'État qui autorise le port d'armes et certainement pas le maire de Paris.
Coût global de cette proposition?
Le surplus, c'est-à-dire passer 3200 personnels à 5000, c'est 80 à 100 millions d'euros.
Sur un budget de la ville de Paris qui approche les 10 milliards,
qui
on le rappelle.
Qui approche les 9 milliards.
9 milliards d'euros. Benjamin Griveaux, Cédric Villani, c'est terminé? Il n'y a plus de rapprochement envisageable?
Ça n'est pas vrai, nous avons des divergences, elles s'expriment sur des sujets, mais dont je ne considère pas qu'elles sont insurmontables pour demain porter une alternative à la politique conduite par Madame Hidalgo. J'ai entendu Cédric Villani dire publiquement, dans différentes émissions, qu'il avait une adversaire qui était Anne Hidalgo. Voilà un autre point commun, au-delà des convergences de fond. Et donc, vous savez, il fait sa campagne.
Un ralliement n'est plus possible, Benjamin Griveaux.
D'abord, moi, je suis un optimiste par nature.
Mais il va y avoir un problème de compte de campagne assez rapidement. Vous le savez, jusqu'à quand peut-il se rallier si vous souhaitez toujours qu'il se rallie à vous?
Vous le savez, je suis un optimiste et moi, je veux convaincre sur le fond. Je proposerai au mois de novembre un contrat de mandature sur des valeurs, des projets et une méthode. Et je verrai à ce moment-là qui souhaite, au fond, m'accompagner dans l'aventure collective qui est en train de se bâtir autour de ma candidature. Deux maires d'arrondissement m'ont rejoint, une de gauche, une de droite.
Benjamin Griveaux.
Vous voyez, nous travaillons à ce rassemblement.
Benjamin Griveaux,
j'y suis concentré.
Toujours optimiste. Merci,
merci
d'avoir accepté mon invitation.